Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. On continue cette émission sur la thématique du travail avec le film Comme des lions de Françoise Davis. Donc c'est un documentaire qui a été réalisé à Aulnay, à Peugeot PSA, pendant la grève qui a duré 4 mois des ouvriers donc de Peugeot PSA. Ce film est sorti en salle cette semaine. La musique du film a été réalisée par Moussé Hakim. Voilà, donc on écoute l'interview de Françoise Davis, la réalisatrice. Une interview qui a été réalisée il y a quelques semaines.
Malheureux, quoi, c'est tout. C'est malheureux, bah oui. Ça qui est...
Il y a des salariés qui disent, bon, bah, tant que la direction n'a pas fait d'annonce officielle, on ne peut pas vraiment réagir. Bon, ça, c'est vrai, c'est dans la tête d'un certain nombre de salariés. Nous, on pense que c'est une erreur, parce que si on attend l'annonce officielle telle qu'elle a été prévue dans les documents, c'est juillet de 2012. Donc dans 6 mois, ça va arriver vite, hein, ça va arriver extrêmement vite. Bon, nous, on a tout intérêt à ce que les salariés, on ait marqué des points. La lutte, c'est bien souvent d'abord cette affaire dans la tête. Hein. Tous ceux qui font du football, ils savent très bien que ceux qui vont jouer un match de football, avant, ils l'ont préparé dans leur tête, dans une salle, à regarder le match d'avant, sur un écran de télévision, tiens, t'as fait ça, t'as pas fait ça. Bon, eh ben, nous, il faudrait qu'on soit capable de préparer ça de la même manière, parce que la direction, elle le fait.
Bonjour Françoise Davis, tu es réalisatrice, tu as notamment réalisé le film « Comme des lions », qui sort en salle prochainement, peut-être tu peux nous dire la date.
Alors ça sort en salle à partir du 23 mars, voilà, et il y a des débats, des rencontres dans toute la France jusqu'au mois de juin.
Alors qu'est-ce que tu as fait comme film auparavant ?
Alors auparavant j'avais fait une douzaine de films de documentaires pour la télévision, dont un film qui s'appelle « Des gens comme nous » sur les violences policières, un film sur l'école qui s'appelait « Première classe », un film sur les rapports des parents à l'hôpital, enfin pas mal de films en fait sur les rapports entre les gens et les institutions.
Donc là, il s'agit de la grève qui a eu lieu donc à Aulnay, dans l'usine PSA, en 2012-2013. Une mobilisation qui a duré dans le temps, donc c'était au moment de l'annonce de la fermeture de l'usine PSA à Aulnay. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte ?
Bah en fait, le syndicat CGT de l'usine a obtenu anonymement un plan secret. Le plan secret de la direction qui, en 2010, au moment où ils avaient des ventes records de voitures, décidait déjà de la fermeture d'Aulnay-sous-Bois pour des raisons financières. Hein, pas des raisons de production, mais des raisons financières, puisque c'est l'usine la plus moderne de France. Donc ils avaient décidé cette fermeture. C'était un plan secret. La CGT a décidé de le rendre public pour engager la bagarre avant même, un an avant, que la direction avoue que ce plan était réel. Donc il y a eu toute une année de bagarre sur le registre de non à la fermeture, donnez-nous un nouveau modèle, puisque la direction disait qu'elle n'était pas du tout décidée à fermer. Et en fait, ils ont annoncé à la date prévue la fermeture de l'usine. Et il y a eu encore après donc un an de bagarre, dont 4 mois de grève, pour obtenir les meilleures conditions de départ lors de la fermeture de cette usine.
Aulnay, PSA, c'était combien de salariés ?
Alors au départ, c'est une usine qui a été créée en 1974 pour remplacer celle de Javel. C'était 7000 salariés et puis il y a eu beaucoup de suppressions de postes. Donc quand l'usine, il y a eu l'annonce de la fermeture, ils étaient autour de 3000, 2800, 3000. Voilà, il y avait plus de 50 nationalités et puis c'est au cœur de la Seine-Saint-Denis, hein, Aulnay-sous-Bois. C'est vraiment une des plus grosses entreprises de la Seine-Saint-Denis.
Et c'était quoi comment la direction a expliqué la fermeture de cette usine ?
La direction, sa technique, c'est de raconter toujours des mensonges. Donc au moment officiel de la fermeture, ils ont dit que c'était parce qu'il y avait moins de voitures, qu'ils vendaient moins de voitures. Mais en fait, au moment du projet du plan, ils n'avaient jamais vendu autant de voitures. Donc c'est vraiment des raisons de stratégie, de dépenser le moins possible pour gagner le plus possible. Donc ils ont alourdi en fait le travail des autres usines, notamment de Poissy et de Mulhouse. Parce que la C3 se fabriquait, la voiture C3 se fabriquait à Aulnay et qu'elle se fabrique maintenant, en plus du reste, à Poissy. Et puis ça a augmenté aussi le rythme de la production à Mulhouse. Voilà. Mais c'est des explications qui sont toujours des explications fausses, puisque la question, c'est juste la question de la rentabilité. En fait, ça n'a pas d'utilité de fermer l'usine en termes de... c'est pas un problème, on a souvent dit ça, de voitures qui se vendent moins. Hein. C'est pas du tout ça, quoi.
Donc du coup, on va dire que la CGT, c'est en juin 2011 qu'elle est informée secrètement en fait de la fermeture de l'usine. Après, le PDG, donc Varin, il annonce le 12 juillet 2012 officiellement la fermeture. Donc c'est là que commence la mobilisation, enfin plus ou moins.
Non, ça faisait donc un an qu'ils étaient mobilisés, qu'il y avait des manifs. Moi j'ai commencé à filmer en novembre 2011. Et ils avaient commencé déjà à se bagarrer, à essayer de convaincre les gens de l'usine de se battre justement contre la fermeture, en exigeant tout de suite qu'il y ait des garanties sur la fin de la construction, de la fabrication de la C3 là-bas, et puis même l'attribution d'un nouveau modèle. C'était vraiment une bagarre qu'ils avaient engagée, mais c'était vrai que c'était dur pour les salariés de croire. Que la direction mentait à ce point. Or, elle mentait et elle a continué à mentir après. Et donc, en effet, la mobilisation s'est accentuée pour, d'une part, essayer autant que possible encore d'obtenir la continuité de l'usine, puisque, honnêtement, il n'y a pas de vraie raison juste de la fermer. Et surtout, ça fait perdre des emplois, encore 3000 emplois en Seine-Saint-Denis, alors qu'on en manque. Et puis aussi, si jamais la fermeture, ils n'étaient pas assez forts pour l'empêcher, au moins d'obtenir des bonnes conditions pour leur avenir, ce qui n'était pas le cas, puisque PSA se contentait des mesures légales, hein, de plan social.
Alors, par rapport aux syndicats en fait dans l'entreprise, comment ils sont représentés ?
Alors il y a 7 syndicats. Il y avait 7 syndicats, dont un syndicat maison qui s'appelle SIA, qui est le successeur de la CSL, donc celui qui est de sinistre mémoire, qui a tué Pierre Ouvernet par exemple. Donc c'est un syndicat maison qui est un peu moins violent que ce qu'il n'était, mais qui a encore beaucoup de puissance, puisque c'est celui sur qui on peut compter si on veut être du côté de la direction. Donc il faisait 30% des voix, la CGT faisait un peu plus dans le collège ouvrier, mais il fallait compter avec eux. Donc pendant jusqu'à la grève, la CGT en tout cas a essayé de garder un côté unitaire à la lutte, mais assez vite, mais ça c'est vrai dans toute grève, il y a eu l'essentiel des syndicats qui ont signé le plan social et qui ont laissé tomber la bagarre pour l'améliorer, quoi.
Mais alors du coup, les autres syndicats, Sud, FO, comment ils se positionnaient, enfin, et puis les autres aussi, réformateurs, CFDT, CFTC?
C'est-à-dire que dans la lutte, il y avait de tout. Il y avait une Gigi qui était au SIA, qui est restée jusqu'à la fin, qui est maintenant déléguée CGT. Sud est resté jusqu'à la fin, sauf son dirigeant principal. Mais les autres, et la CFDT, il y avait le représentant syndical de la CFDT qui est resté jusqu'au bout dans la lutte. Mais par contre, les syndicats, en haut, hormis la CGT, ont tous signé le PSE en plein milieu de la grève, ont accepté les conditions qu'un qu'imposait PSA. Quoi. Et c'est pour ça que dans l'usine, ce qui s'est fait très vite, hein, à partir du moment où l'annonce a été faite officielle, il s'est créé des comités de grève. Pas pour contourner les syndicats, mais pour permettre à chaque salarié qui voulait se mettre en bagarre d'avoir les mêmes informations et d'être décideur. Ce qui fait que la lutte a pu tenir, y compris une grève de 4 mois, sans que, même si les syndicats lâchaient. Parce que c'est, au fond, c'est chaque salarié qui se mettait en bagarre qui avait les leviers pour décider du mouvement.
Et au niveau du taux de syndicalisation dans l'entreprise, est-ce qu'il y a beaucoup de gens syndiqués ?
Je pense pas, je sais pas, j'ai pas le taux exact, mais non, je pense pas qu'ils étaient beaucoup syndiqués. PSA, c'est une entreprise avec un management de combat. C'est difficile d'être syndiqué parce qu'on a des pressions, on tient pas beaucoup. Enfin, c'est pas un endroit facile pour militer et se syndiquer. Alors à Aulnay, c'était un endroit où il y avait eu plusieurs luttes, notamment les luttes des anciens en 82 et 84 pour obtenir des droits. Ça s'appelait CSL à la poubelle. C'est-à-dire le droit d'être syndiqué ailleurs que dans un syndicat maison et le droit d'avoir des représentants, etc. Donc ça, c'était les luttes des anciens. Et en 2005 et en 2007, il y a eu la lutte des nouveaux, je veux dire. Donc il y a quand même une habitude de bagarre dans une partie de l'entreprise, ce qui est assez atypique des usines PSA, quoi. Donc il y a une histoire de bagarre, mais il n'y a pas une syndicalisation. C'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile de se bagarrer dans des usines comme ça.
Alors comment s'est fait le choix du film ?
C'est-à-dire que, si on se rappelle, moi c'est de novembre 2011, c'était juste avant les élections présidentielles, la Sarko-Hollande, et déjà le climat était à se dire, les luttes elles gagnent jamais, ça sert à rien, etc. Donc moi en termes de fond, je voulais aller voir des gens qui décidaient de se battre, hein, parce qu'annoncer un plan secret c'est quand même décider de se battre avant tout le monde, quoi. Donc je voulais montrer ce que c'était qu'une bagarre qui s'engage, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça permet aux gens en termes de personnes, comment on s'engage là-dedans et qu'est-ce que ça donne pour justement essayer de comprendre en quoi on nous explique que c'est pas terrible de le faire. Ben, moi je voulais aller voir ce qu'ils font, quoi. Et puis sur la forme, je voulais montrer, je voulais filmer comme j'avais envie, c'est-à-dire des gens en dialogue, en séquence, enfin comme si c'était une fiction, mais dans la réalité, quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait une raison de fond et de forme, un peu d'envie que ça bouge, quoi.
Donc le tournage, il a duré combien de temps ?
Alors j'ai filmé pendant 2 ans, en fait, jusqu'à la fermeture de l'usine. Donc j'ai filmé les bagarres contre la fermeture jusqu'à l'annonce officielle, le moment où on décide des revendications, parce que les revendications sont décidées dans les ateliers ouvrier par ouvrier. Hein. Il y a vraiment eu des listes faites de revendications selon les désirs de chacun. Et puis ensuite la grève de 4 mois, et puis l'après-grève. Le moment où, puisque la grève elle a été minoritaire, hein, même s'il y avait un soutien et que donc les autres salariés n'ont jamais redémarré l'usine ou quoi que ce soit, mais la grève était minoritaire. Et après la grève, pour ceux qui ne l'avaient pas faite, c'est très très dur, hein, le moment de la fin de l'usine et d'obtenir quand même un avenir, quoi. Ça a été très très rude. Donc je voulais montrer aussi ça, ce que ça fait quand on lutte, ce que ça fait quand on lutte pas.
D'accord, mais du coup, on les voit pas beaucoup, ceux qui luttent pas.
On les voit discuter avec les autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a pas, pour moi, il n'y a pas un clivage. Le clivage, il est direction salarié. Il n'est pas ceux qui luttent pas. Même dans ceux qu'on voit, qui sait s'ils ont fait 4 mois, 2 mois, 1 mois, 3 semaines. Voilà. Mais il y a des discussions, ce qui fait qu'on sait pourquoi aussi certains ne se mettent pas dans la bagarre très longtemps. Ils expliquent leur peur, l'idée qu'il faut sauver sa gueule et pas être collectif, ou l'idée qu'il faut qu'il n'y a pas assez d'argent et qu'on n'a pas envie de s'engager. Donc il y a toutes les raisons. Après, c'est sûr que je faisais pas un film sur pourquoi on lutte pas. Hein. Donc raconter une lutte, c'est raconter aussi plutôt les aléas de la lutte que d'aller voir. Parce que on est toujours quand même programmé sur ça, quoi. Et raconter pourquoi ça marche pas, quoi. Moi, j'avais envie de raconter ce qui marche dans une lutte. Pourquoi ça vaut le coup. Alors, c'est peut-être orienté, mais en même temps, c'est ce dont on ne parle jamais. Donc moi, c'est quand même ça aussi de faire des films, c'est de raconter des univers pour qu'on les découvre. Voilà. Mais les non-grévistes, ils sont très présents dans le film, hein, c'est sûr. Mais encore une fois, le clivage, il n'est pas gréviste-non-gréviste, il est direction et salarié. Les grévistes, ils avaient les mêmes revendications, tous, hein, ils les ont signées. Hein. Il y a 1800 ouvriers qui ont signé les revendications, donc comme il y a 1800 ouvriers, Ils ont tous signé et ils étaient d'une façon ou d'une autre contre ce plan. Après, c'est vrai, mais ça se voit aussi dans le film, qu'ils n'étaient pas au même niveau de bagarre et que quand on se met en bagarre, l'avantage, c'est qu'on prend le pouvoir, quoi. On peut décider soi-même de qu'est-ce qu'on fait et comment on agit, etc. On est plus libre.
Je pense quand même que dans le choix du film, il y a quand même une place très importante qui est donnée à la CGT.
Oui, il y a une place importante. D'abord, c'est parce que c'est avec eux que j'ai commencé. Enfin, j'ai commencé à tourner avec la CGT et le SIA. Mais le SIA ouvrait beaucoup moins ses portes. Hein, donc, clairement, c'est avec ceux de la CGT que j'ai été. Et puis après, au sein même de la bagarre, les délégués CGT, ils étaient pas tous, hein, y avait des gens qui faisaient pas grève, mais globalement, la CGT est très, très impliquée dans le mouvement. Mais encore une fois, c'était un mouvement dirigé par un comité de grève. Et donc il y a par exemple Philippe Julien, qui est quelqu'un qui a fait les luttes depuis 1984, qui a une grande expérience, qui est le secrétaire de la CGT, qui donne toutes les informations, toutes ses connaissances, etc., dans les assemblées générales, mais à aucun moment, c'est lui qui décide. Ni de signer, ni de pas signer, ni même de l'action qu'on fait au jour le jour. C'est-à-dire qu'il met au pot commun ses connaissances et qu'à aucun moment il ne prend le pouvoir, quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi. Donc oui, c'est une lutte où la CGT est très présente, où il ne le cache pas, mais en même temps, ce n'est pas une lutte de la CGT.
Et alors du coup, Philippe Julien, c'est aussi quelqu'un qui a une place importante au sein de Lutte Ouvrière. Comment ça s'articule ?
C'est Jean-Pierre Mercier, le porte-parole de Lutte Ouvrière, c'est pas Philippe Julien.
Il me semble qu'il est oui, responsable de Lutte Ouvrière à Saint-Denis.
À Saint-Denis, oui. Ben, comment ça s'articule ? Moi, de ce que j'ai vu, je pense qu'il faudrait lui demander à lui. Le fait qu'il soit à Lutte Ouvrière, ça correspond à leur point de vue sur ce que les ouvriers devraient faire dans les usines, je pense. Mais en tout cas, moi, j'ai vu des gens, en termes de délégués CGT, très, très, comment on va dire, honnêtes sur le travail qu'ils font de syndicalistes et qui, à aucun moment, mélangé les deux. Et je pense que sinon, ça n'aurait pas marché avec les ouvriers. Vraiment, ça n'aurait pas marché. Les ouvriers ne sont pas lutte ouvrière. En revanche, ce qu'il faut bien noter, c'est que dans une usine comme PS à Aulnay, des gens qui font de la politique, moi, je n'ai vu que lutte ouvrière. Il y a très très peu d'ouvriers qui sont dans un parti politique à Aulnay, je pense partout, quoi. Donc voilà, ça c'est sûr que, au lieu de se dire « Ah là là, c'est lutte ouvrière », on ferait mieux de se dire « Oh là là, il n'y a que lutte ouvrière ». Franchement, c'est ce qui est embêtant, c'est qu'il y ait si peu d'ouvriers qui aient une place dans les autres partis politiques. Enfin, pour moi, c'est plutôt ça que ça m'apprend. Moi, je ne suis pas lutte ouvrière, mais... Honnêtement, je reconnais qu'il n'y avait que des... En termes de militants, il n'y en avait pas beaucoup. Et ceux qui étaient là étaient à lutte ouvrière.
Toi, il me semble, à la CGT, non ?
Je suis à la CGT et je suis au PCF aussi. Je suis parti communiste, voilà. Mais encore une fois, c'est pas un film... Pour moi, c'est pas un film tract. Hein. C'est vraiment pas un film tract. C'est, moi, je suis cinéaste avant tout. Et ce que je voulais... Alors ça, c'est une question de citoyens et sans doute de gens qui s'intéressent à la transformation sociale. Moi, je voulais aller voir des gens qui luttent. Mais qui luttent vraiment, pas des naïfs. Parce qu'on est un peu limité en termes de documentaire. On nous demande d'aller filmer des naïfs à qui ils tombent sur la tête la fermeture et qu'est-ce qu'ils font. Comme si c'était un hasard la lutte, quoi. Comme si ça nous arrivait par malheur. Mais la lutte, ça n'arrive pas par malheur. La lutte, ça existe. Ça devrait même être un pan de notre vie assez logique et habituel. Et donc, moi, je voulais aller voir des gens pour qui c'était ça. Un pan de leur vie logique et qui ait une connaissance de ce qu'on peut faire dans ces cas-là, de ce qui se pose, des obstacles, etc. Pour montrer, encore une fois, que la lutte, c'est une histoire. Hein, c'est l'histoire du mouvement ouvrier. Et c'est quelque chose de possible, même de plutôt agréable à vivre et non pas un malheur qui nous tombe sur la tête, quoi. Et donc de remettre ça sur cette place-là et de montrer comment ça se passe, puisque presque la grande majorité d'entre nous, on n'a jamais fait de lutte. Donc je voulais montrer ce que c'était. C'est quand même ça le cinéma, c'est de découvrir des univers.
Négociation,
c'est marqué. Combien de négociations ?
Ça sera la sixième.
Pour rien dire.
Il n'en sortira rien du tout. Et la date pour nous qui est importante, c'est quand même la date du 11 février. C'est la date où ils vont démarrer l'équipe de nuit à Poissy. Ils se mettent en position de reprendre la production d'Aulnay. Il faut s'attendre fin février à ce que les mutations et la direction proposent des mutations des camarades. On a 2 mois en gros devant nous où on est encore tous ensemble dans l'usine. Et c'est ces 2 mois-là Il faudrait vraiment qu'on mette les bouchées doubles et qu'on efface quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'on a fait jusqu'à présent pour essayer de faire reculer la direction. Pour l'instant, ce qu'on a, c'est zéro.
Au mois de juillet, on a discuté à l'époque de dire on ne va pas partir en grève illimitée maintenant parce qu'il y a des mois devant nous. Sauf que là, on n'a plus des mois devant nous. Les délais, ils s'approchent.
On est, je sais pas, on est 2000. Il y a peut-être 1800 personnes qui pensent avoir une place. Et ceux-là, ils ne bougeront pas. Et ceux qui ne bougeront pas, parce qu'ils savent que s'ils bougent, ils n'auront pas la place. Même si l'espoir, il est hypothétique.
Si on commence à faire le nécessaire maintenant, à parler avec les gens, là, qu'on pour qu'ils sortent, si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où il y a le problème.
Je sais pas, il faut trouver... Il y avait une société là qui avait mis des bouteilles de gaz, là, qu'ils avaient écrit. Non, mais sérieux. Même, ils disent qu'ils allaient faire, même si c'était pas vrai. Mais bon, c'était le fait de le faire. Et voilà, ça a bougé après pour eux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont obtenu, mais je sais que ça avait bougé pour eux un petit peu. Non ? Je dis non, Marc. Hein ? Ça a pas bougé ? Hein ? Ben si, ils ont eu, ben si.
Pourquoi pas bloquer les portes ? Si on est à 100, 200 personnes, il n'y a pas de risque. Pour bloquer les portes, personne qui rentre.
Dire qu'à 200, bloquer l'usine, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas.
Tu peux discuter, tu peux aller discuter autant que tu veux là au montage. Va discuter pendant une semaine non-stop, vas-y. Ça bougera pas.
Pendant les deux mois qu'on est 1800 ouvriers, on va s'adresser aux 1800 ouvriers. On n'y arrivera peut-être pas. Ok, c'est d'accord, on n'y arrivera peut-être pas. Mais moi, si on ne le fait pas, je ne veux pas avoir de regrets. Bout de deux mois. Après deux mois, on pourra dire on a essayé, ça n'a pas marché. Mais si on ne le fait pas, on pourra rien dire. Alors moi, je ne dis pas que c'est pas parce qu'on n'arrivera pas à le faire qu'il ne faut pas se battre. C'est pas ça que je dis. Je suis d'accord, si on est 150, on fera des trucs à 150. Si on est 200, on fera des trucs à 200. Si on est même 50, on fera un truc à 50. C'est pas ça que je dis, moi. Au nombre qu'on est, on se battra. Mais là, on est 1800. Putain, les 1800, on les a encore pendant deux mois autour de nous. On bosse avec eux. On vient tous les matins avec eux. On les côtoie. On mange à la cantine avec eux. On discute d'un tas de choses. On va discuter de ça. Si on trouve les forces nécessaires, on a, pourquoi pas, plusieurs semaines pour faire grève. Grève complète. Être le plus nombreux possible. Et pendant la grève complète, etc., c'est pas les mains dans les poches. C'est y compris, pourquoi pas faire des actions vers l'extérieur, etc., etc. Faire un tas de trucs. Quand t'es en grève, t'es libre. Donc, tu es libre de faire un tas de trucs vers l'extérieur. Moi, je pense que deux mois, et essayons, qu'est-ce qu'on a à perdre? Moi, je suis dans l'usine. De quoi je vais discuter avec les gars?
Ça là, discuter avec qui? C'est ça que je voulais discuter avec qui? Avec qui?
En logistique, on a 100 gars avec qui discuter, 100 charistes.
Mais non, mais ça, discuter avec qui? Avec les mecs qui sortent? Ou discuter avec les mecs qui sortent jamais et impossible de les faire sortir?
Les deux.
Ça fait. Ben, les deux, ben, c'est une perte de temps. Voilà, ben, on va perdre le temps. Les mecs, ils vont être démoralisés. Et vas-y, même nos copains, ils sortiront plus. Et ben vas-y. Moi, je te dis, c'est un double tranchant.
Mais quand tu fais?
Et alors, comment on fait pour rentrer une caméra dans une usine?
On n'a pas le droit, il faut demander l'autorisation, on le voit dans le film, il faut porter une chasuble rose, être adoubé par la direction, etc. Donc moi j'ai choisi de ne pas faire ça, donc j'y suis allée dans l'usine même, dans les ateliers quand c'était la grève, puisque dans la mesure où les ouvriers occupaient l'usine, elle était à elle, et elle était à eux. Donc là, je pouvais filmer, en tout cas avec eux. Et puis en dehors de ça, ben, je filmais dans les locaux syndicaux. Et puis après la lutte, j'avais pris l'habitude de rentrer, donc je continuais à rentrer. Voilà. Mais c'est interdit. C'est un des problèmes, c'est que les ouvriers, qu'on en parle toujours comme d'un monde qui disparaît. On dirait que quand on va filmer des ouvriers, on va filmer des gens qu'on cancer, quoi. Alors qu'il y a toujours... Il y a toujours énormément d'ouvriers en France et de salariés encore plus. Mais sauf qu'on n'a pas le droit de filmer les ouvriers sur leur lieu de travail, sauf sans contrôle de la direction. Donc c'est un monde caché, c'est pas un monde qui disparaît ou qui meurt, c'est un monde caché. Ben, mon film, au moins, on a le plaisir, mais c'est vraiment le plaisir, j'insiste encore, hein, c'est pas un film de mourant, c'est un plaisir de rencontrer des gens vivants, quoi.
Alors, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu filmer, mais que tu n'as pas pu, liées aux autorisations ?
Ah ben moi, j'aurais aimé, au départ, je voulais vraiment faire un film de stratégie, ce que j'ai un peu fait, sauf que j'aurais aimé filmer la stratégie de la direction, la stratégie de l'État. Moi, j'ai demandé, par exemple, au cabinet Montebourg, de filmer qu'est-ce qu'on fait quand on est un cabinet ministériel et qu'il y a une fermeture aussi importante Publier un cours, il n'y avait pas eu un truc comme ça en France, donc c'était quand même essentiel. Et bon, ils l'ont pas souhaité pour des raisons d'image. Et donc, si on se heurte à un truc qui est que, autant du côté de ceux qui luttent, ils sont dans une capacité à se montrer tels qu'ils sont, autant côté gouvernement et côté entreprise, ils sont dans des, ce qu'ils appellent des éléments de com', et on ne dépasse pas l'élément de com'. Donc, ben dans le film, on les voit, mais comme ils sont, c'est-à-dire comme des éléments de com', et on a leur communication. Pas plus. Et ça, c'est regrettable, parce qu'à la limite, ça aurait été encore plus intéressant de voir les stratégies des uns des autres. Bon, on la voit, hein. On voit les mensonges, on voit les évolutions, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette transparence-là.
Et les non-grévistes, alors, est-ce que c'est facile de les filmer ?
Bon, les non-grévistes, il y en a une part qui a peur, donc on peut facilement discuter avec eux, plus difficilement les filmer, notamment les cadres. Les cadres de l'entreprise même, c'était pas compliqué de discuter avec eux, mais c'était impossible d'accepter. Ils acceptaient pas d'être filmés. Les non-grévistes, eux, ils acceptaient. Hein. En gros, ce qu'il y a dans le film, c'est les points de vue de ceux qui faisaient pas grève. Hein. C'est-à-dire, il faut que je me débrouille par moi-même, ça sert à rien d'être collectif, on va y perdre. Soit j'ai peur pour mon argent, soit je veux avoir un poste et donc je ne peux pas faire grève. Il n'y a pas de secret. J'ai filmé un non-gréviste longtemps, hein, chez lui, en interview, etc. Hein, donc je pense vraiment que comme les autres, dans le film, il y a le point de vue des non-grévistes qui s'exprime. Il faut arrêter de penser qu'il y a, à part chez les militants des SIA qui sont avec la direction, il n'y a pas chez les non-grévistes un truc qui serait « je suis contre la grève, je suis d'accord avec le plan social ». Ça n'existe pas. Moi, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. C'est simplement des questions de franchir le pas ou pas, de stratégie personnelle. Est-ce qu'on est dans une stratégie collective ou est-ce qu'on continue à penser, et il y en avait une bonne dose pour qui c'était le cas, que c'est la direction qui peut, de la meilleure manière, arranger mon problème. Voilà.
Mais alors du coup, donc, tu dis que tu as suivi aussi des ouvriers chez eux. Je pense que dans le film, tu as fait le choix au moment du montage de retenir plutôt les événements, enfin l'action. Pourquoi ce choix ?
Parce que je voulais qu'on soit plongé dans la grève et pas dans l'individualisation de la grève. C'est-à-dire que je crois que tout ce qui se dit... Il y a des personnages dans le film, on les comprend, on les découvre, on comprend qui ils sont, etc. Moi, j'avais pas envie de faire un film, encore une fois, comme le standard qui se fait habituellement, c'est-à-dire des portraits individuels, un peu pleurnichard, et puis deux, trois actions pour montrer qu'ils bougent. Moi, je voulais qu'on soit chacun plongé et qu'on puisse s'identifier à ce que c'est que d'être dans une lutte, ou ne pas y être d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, à ce que c'est que d'être au cœur d'une usine où il y a des gens qui se battent. Et donc, c'est l'effet que ça fait, c'est une question de cinéma, quoi. L'effet que fait le film, c'est qu'on est plongé en permanence et qu'on est comme eux. On est dans la même situation qu'eux, à égalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment d'observer des gens qui seraient en dessous de nous, ce qui est souvent le cas quand on montre les milieux populaires. Là, on est plongé à égalité avec eux, ils prennent toutes leurs dimensions, toute leur place. Et je ne prends pas le pouvoir sur eux, et les gens qui regardent, ils ne prennent pas le pouvoir sur eux. C'est-à-dire, c'est eux qui sont devant. C'est pourquoi j'ai pas, hormis quand il y a la grève, j'ai pas émis les interviews chez eux, etc., etc. On est vraiment dans le cœur de l'action, comme un film d'action, comme un thriller, quoi.
Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, les comités de grève ?
La comité de grève, c'est l'idée qu'il y a tous ceux qu'ils souhaitent, qui se voient tous les jours et qui déterminent ensemble les propositions d'action et de stratégie de la grève. Donc ils sont autour de 200 en général. Donc à la fin, il y a à peu près 220 grévistes à la fin. Mais pendant toute la lutte, hein, même avant la grève, il y a autour de... Enfin, avant la grève, il y en a plus parce qu'avant la grève, comme il y a des ateliers, il y a un comité de grève par atelier, en fait. Mais pendant la grève, il y a un comité de grève commun. Ce comité, donc, discute, décide des actions. Et puis l'action, elle est votée en assemblée générale ensuite, où là de nouveau il y a une discussion si jamais ça bloque. Ce qui permet, en fait, c'est pas de la démocratie juste pour le plaisir de la démocratie, ça permet vraiment que tout le monde dise sa pensée et qu'au fur et à mesure du débat, c'est long, hein, un comité de grève c'est une heure, deux heures, au fur et à mesure du débat, tout le monde ait dit sa pensée et donc tout le monde est cheminé pour se mettre d'accord. C'est pas simplement on dit son avis et puis il y en a un qui décide, c'est vraiment on se met d'accord précisément sur l'action. Donc du coup, c'est vraiment un endroit où chacun peut prendre sa place. Et surtout, après, il y a une confiance et une tranquillité qui fait qu'ils sont super efficaces. Il n'y a pas, notamment sur les questions de violence, il n'y a pas un coup de poing qui part, simplement parce qu'ils ont tout mis sur la table, tout est dit, tout est déterminé, et que la décision, elle s'est vraiment prise ensemble.
Alors, Justement, est-ce que dans un comité de grève, finalement, ceux qui sont syndiqués ou les syndicalistes, est-ce qu'ils n'ont pas une facilité peut-être plus à s'exprimer que les non-syndiqués ?
Bah, je sais pas, ça faut regarder le film, ça se voit que non. En fait, ça se voit que non.
C'est-à-dire... En fait, on ne sait pas dans le film qui est syndiqué, qui ne l'est pas.
Et ceux qui parlent, globalement, ils sont pas... Il y en a autant de syndiqués que de pas syndiqués. C'est-à-dire... Et puis, il faut voir un truc, c'est que moi, je montre... C'est déjà le cœur du film, hein, de montrer ces discussions-là, mais je ne montre pas la discussion dans son entier. Et dans son entier, les syndicats... Par exemple, si on prend la paye, on voit la paye à un moment, tous les gens qui font la paye, et la paye, c'est déterminant quand même, hein, tous les gens qui décident de commencer à attribuer, qui s'occupent des litiges, qui donnent les critères d'attribution, qui comptent, etc., c'est des non-syndiqués. Tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est eux qui déterminent comment va s'organiser la paye. C'est-à-dire que vraiment dans ces comités de grève, au niveau de la prise de parole, ça va très vite. C'est-à-dire que moi, ça m'a impressionné, c'est qu'à partir du moment où il y a la possibilité qui est donnée d'exprimer sa pensée, il y a quasiment, on va dire pas tous évidemment, mais au moins un tiers, voire la moitié des gens qui sont dans le comité de grève qui parlent et qui élaborent leur pensée d'une façon, ça se voit dans le film, majestueuse. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de langue de bois. Chacun parle de sa manière, mais chacun exprime vraiment sa pensée. Et de ce point de vue, les délégués, ils sont vachement utiles parce qu'il y a l'expérience. C'est le cas, par exemple, de Philippe Julien, indéniablement. Il parle pas mal dans le film parce que ça permet aussi aux gens qui sont, un peu comme dans l'usine, hein, aux gens qui regardent le film, d'avoir quelqu'un qui décrypte. Mais ce décryptage, c'est jamais une prise de pouvoir. Jamais. Parce que sinon, la grève ne peut pas durer. On ne peut pas tenir 4 mois. Avec quelqu'un qui décide tout seul, ou 10 mecs qui décident tout seul, ou 30 mecs qui décident tout seul. Ça tient, et ça tient de façon, ce qui est beau dans le film d'ailleurs, de façon tellement lumineuse, ça tient parce qu'ils décident ensemble. Il n'y a pas de faux semblant sur cette démocratie-là. Ils décident vraiment ensemble. Et y compris, il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qui sont... Il y a des comités, des commissions pour aller chercher l'argent, des commissions pour organiser les actions et tout ça. Moi, je n'ai pas montré tout ça dans le film parce qu'il y a un moment, c'est pas... C'est trop compliqué de tout détailler. Mais il y a des commissions et donc chaque gréviste, il a quelque chose à faire. Et encore une fois, il y a le pointage, pareil. Le pointage, il n'y a quasiment aucun délégué qui s'occupe de pointer les gens qui sont là. C'est eux qui ont proposé pour qu'on puisse payer les gens et pour savoir qui est là. Tous les jours, il y a un pointage. Le mec, il amène sa carte avec son numéro de gréviste et il s'inscrit. C'est-à-dire que le chiffre qui est donné par les grévistes, c'est un chiffre qui est compté sur un papier. Ben, tout ça, c'est des non-grévistes.
Parmi les grévistes, dans les comités de grève, quelle est la proportion syndiquée-non syndiquée ?
En tant que délégué, je pense que les délégués... C'est assez simple, hein. Il y a eu, à la fin de la grève, il y a 220 grévistes qui restent et il y a 180 qui partent. Je pense que ceux qui restent, c'est des délégués. Donc je pense qu'il y avait 40, à mon avis, il y avait 40 délégués, 40 à 50 délégués dans la grève, délégués CGT. Les autres, il y a des syndiqués CGT, mais ils devaient être 200 dans l'usine, hein, les CGT, je pense, pas plus. Et il y a 600 grévistes. Donc c'est simple, hein. Il y a forcément... plus de non-syndiqués que de syndiqués.
Quand tu dis ceux qui partent à la fin, j'ai pas compris.
En fait, il y a une partie la plus grosse partie de ceux qui ont fait la grève de 4 mois, qui ont obtenu 20 000 euros de primes en plus et qui sont partis à la fin de la grève. Voilà. Donc cela, la plupart des grévistes qui ont tenu 4 mois sont partis de l'usine.
C'est-à-dire que ceux qui sont restés, qui ont été reclassés, c'est les syndicalistes, en fait, c'est ça ?
Ouais, globalement, ouais. Non, il y avait aussi, il y a aussi des non-syndiqués. Je vois, il y a Rachid qui dit je reste, il est non-syndiqué, il a fait de la grève jusqu'au bout et il est à Villeneuve-la-Garenne. Donc il y en a aussi, mais globalement, ouais, c'est des gens qui avaient envie de continuer la bagarre. Donc il y a beaucoup pour le coup, il y a beaucoup de syndiqués qui sont restés relativement à ceux qui sont partis. Puis c'est plus dur de se reclasser quand on a été syndiqué, hein.
Et alors, au niveau du comité de grève, on a l'impression quand même que c'est majoritairement des ouvriers et puis enfin les classes populaires, quoi. Où sont, enfin, mais aussi il manque, enfin il y a des personnes que je n'ai pas l'impression de voir dans ce comité de grève, c'est les employés, ceux qui travaillent dans les services.
Les bureaux et les cadres, ils sont pas mis dans le mouvement, ouais, c'est clair. C'est clair. Alors après, moi, je ne peux pas forcément analyser pourquoi, hein, mais c'est clair que les cadres aussi, c'est une question de... Enfin, là, tu te grilles totalement. Il y a un gars à Mulhouse, là, qui est venu à la projection, un cadre, qui est Mulhouse, hein, donc, parce qu'ils envoyaient des cadres d'autres entreprises pour faire les nervis un peu. Et donc lui, il a refusé d'y aller. Donc il est de Mulhouse, il a refusé d'aller à Aulnay pendant la grève. À la fin de la grève, il a été convoqué, on lui a dit « ta carrière, elle est finie ». Juste parce qu'il a refusé d'y aller. Donc imaginez bien que les cadres, là, ça, c'est pas possible. Hein. Donc on pouvait avoir des discussions intéressantes avec certaines, mais faire grève, c'est quasiment impossible. Les bureaux, je pourrais vraiment pas dire. Qu'est-ce qui fait que les employés se mettent pas en grève, ça, je sais pas.
T'as pas fait le choix d'aller les voir, eux ?
Non, mais ils voulaient pas. Alors là, clairement. Hein, non, mais faut voir. Attendez, PSA, c'est pas... C'est pas les bisounours, hein. On parle pas aux gens comme ça, quoi. Il y a des gens, moi j'ai vu des journalistes se faire virer, hein. Dès que tu croisais un cadre et que tu étais journaliste, tu te fais virer de l'usine, hein. C'est pas.
Non, mais je parle des secrétaires, des employés.
Ben, tu vas pas les voir, hein. Tu vas pas les voir. T'as pas le droit d'aller voir les gens. T'as pas le droit de leur parler. Et même quand t'essayes de parler à des gens à l'extérieur, ils baissent la tête et ils foncent. Mort de trouille. Enfin, il y a une pression, il y a une carotte et un bâton dans cette usine. Il faut se rendre compte, quoi, de la pression que c'est. Moi, je me plains pas en tant que journaliste, mais pour les salariés, la pression que c'est de travailler à PSA ou quelle que soit l'usine. C'est-à-dire qu'on risque à tout moment d'être sanctionné, d'être mis sous pression, etc. C'est des gens qui arrivent à ne, ils n'ont pas augmenté leurs salariés depuis 2011 à PSA. Il y a une pression terrible. Enfin, faut. Il faut arrêter de penser que c'est juste les gens qui décident comme ça parce que ils trouvent ça pas terrible de se mettre en grève. C'est très dur de se mettre en grève. C'est un courage incroyable. On risque gros. Et alors chez les employés, je n'ai même pas leur parler, quoi.
Et au niveau des difficultés, en fait, on voit pas trop les difficultés qu'il peut y avoir au sein du comité de grève, les conflits.
Si, quand même, hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit pas? Qu'est-ce qu'on voit pas?
J'imagine qu'il peut y avoir des débats, des désaccords. On est plutôt dans quelque chose d'assez linéaire qui fonctionne.
Ah ben ça fonctionne, hein. Ça, attendez, mais les mecs, ils sont en grève. Il faut qu'ils réussissent. C'est incroyable. Il faut qu'ils réussissent leur grève. Ils sont face à PSA, le deuxième groupe européen. Vous croyez qu'ils font pas des débats sur la comète pour savoir qui a raison, qui a tort. Ils sont en train de décider ensemble de leurs actions. Donc oui, je suis désolée, dans le film, on voit que c'est conflictuel. Est-ce qu'on utilise la violence? Est-ce qu'on l'utilise pas? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on occupe? Est-ce qu'on n'occupe pas? Donc il y a vraiment, vraiment du conflit. Il y a vraiment du conflit, mais ils sont pas en conflit. Ils sont en train de construire leur grève. Donc il y a des avis différents qui se passent. Et c'est assez rude. Moi, je suis pas d'accord qu'on voit pas qu'ils se disputent. Alors, je suis pas du tout d'accord, vraiment. Et ils construisent un truc ensemble. Et à la fin des comités de grève, le truc essentiel et déterminant, c'est se mettre d'accord. Si on se met pas d'accord, on arrête la grève. Hein. Donc, on se met d'accord à la grande majorité sur un truc. Donc, non, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'on voit pas le conflit. Attendez, ils construisent une grève. C'est pas des AG de groupuscules pour savoir qui a raison sur comment on va changer la société. Hein. C'est comment on fait aujourd'hui pour continuer la grève jusqu'à demain. Il faut se mettre d'accord.
Et alors du coup, je crois quand même que... Enfin, parce que c'est pas si évident de faire fonctionner un comité de grève. Donc avant qu'ils se mettent réellement en grève pendant 4 mois, je crois qu'il y a eu quand même... un travail de fond important qui a été fait pour justement apprendre cette question de discuter, de s'organiser.
Prendre la parole, oui, c'est vraiment un travail. Enfin, d'abord, ils ont fait déjà 2 grèves, hein, 2005-2007, donc il y a un petit groupe qui lui, a déjà fait des comités de grève, etc. Et après, il y a toute une mise en place, avec les non-syndiqués notamment, de délégués, essentiellement à partir de l'annonce officielle du plan secret, de représentants dans chaque atelier, qui se voient tous les jours, qui discutent, etc., pour mettre en place ça. Et parallèlement, il y a la continuité de l'intersyndicale pour continuer à discuter avec les syndicats. Mais elle ne dure pas en gros à partir des revendications. À partir du moment où les revendications sont établies poste par poste par des non-syndiqués, là pour le coup, dans les ateliers, l'intersyndicale, ça les fait chier. Il y a un autre moment où il y a un super conflit que j'ai pas mis dans le film, ça c'est vrai. C'est pas un comité de grève, c'est un AG. Parce qu'il y a le représentant de Sud qui, à la fin de la grève, veut être dans la délégation qui négocie la reprise, l'accord de fin de grève. Or, le gars, il n'était pas présent pendant la grève. Il est même pas, il a même pas touché la paye des grévistes, etc. Il dit qu'il était en grève, mais il n'a jamais ramené son bulletin de grève, etc. Donc les gars ne veulent pas qu'il soit dans la délégation. Voilà. Et donc dans la délégation, il y a des noms syndiqués, il y a une ancienne de SIA, il y a un ancien de la CFTC, il y a des délégués CGT, il y a des noms syndiqués, mais il y a pas de mec de Sud parce que ils ont pas désigné de mec de Sud. Et le gars de Sud refuse, s'en va de la grève. Arrête la grève parce que il dit que si Sud doit signer, il faut que Sud y soit. Et que les gars, ils sont tellement installés dans la question du comité de grève et des AG qu'ils refusent de retourner à ce système-là qui est que c'est les syndicats qui doivent décider de l'accord de fin de grève. Donc il s'en va. Là, ce conflit-là. Et je ne l'ai pas mis parce que c'est la fin du film et que c'est un peu compliqué de mettre ça en fin de film. C'est un peu long et un peu brut. Enfin, bon, je l'ai gardé longtemps, puis après je l'ai enlevé parce que c'était dur à... Donc ça, oui, il y a du conflit, mais c'est en AG.
Parce que ça, c'est assez étonnant, quand même. Sud, bon, ça fait partie de Solidaire, c'est quand même une organisation assez radicale. Donc c'est assez étonnant qu'on ne les voit pas et qu'ils ne participent pas à la grève.
Encore une fois, on les voit. On le voit intervenir, mais on les voit dans la proportion. D'abord parce que, encore une fois, c'est une lutte de comité de grève, c'est pas une lutte des syndicats. Donc j'ai aucune raison de faire... Moi, je fais pas un reportage sur qui... Alors je les mets, la CFDT, Sud, etc. Donc quand ils interviennent, hein, en tant que Sud et CFDT, il y avait des gars de Sud dans la grève tout du long, comme des autres délégués, mais dans le comité de grève. Et donc après, Sud... Alors pour le coup, moi je peux témoigner, Sud, dans cette usine-là, c'est pas Sud qu'on connaît en Seine-Saint-Denis. C'est un Sud qui est... le dirigeant de Sud de PSA Aulnay s'est très mal comporté parce qu'il était dans un, alors moi je peux dire quel rapport il avait avec la direction, il était dans un état de pression en permanence sur toute façon vous êtes maqué avec la direction parce que il faut se battre contre la fermeture, point barre, et il faut tout casser. Voilà, ces deux thèmes, c'était il faut tout casser et il faut être contre la fermeture et que contre la fermeture. Sauf que quand on fait un comité de grève, encore une fois, c'est les salariés qui décident. Et donc, contre la fermeture, ils étaient tous, et ils le disent, que c'est leur première revendication, mais ils étaient aussi pour développer d'autres revendications, notamment en cas de fermeture. Et ça, le délégué de Sud, il était contre. Voilà. Donc, il n'a pas joué, pour moi, il n'a pas joué un rôle, il a joué un rôle plutôt négatif et plutôt de casseur de grève. Hein. Moi, si vous me demandez mon avis personnel, que je n'ai pas mis dans le film, parce que c'est pas l'objet du film, pour moi, Sud, le délégué de Sud, pas les militants qui ont assuré, il jouait un rôle de casseur de grève. Et d'ailleurs, c'était drôle, parce que j'ai filmé aussi, mais je ne l'ai pas mis, il y a eu un meeting à Bobigny, où il y a le représentant de Sud départemental qui parle et qui se fait siffler par tous les manifestants. Et c'est super violent. Et donc, il y a un gars, Salah, qui dit « Mais non, ne sifflez pas. C'est pas notre Sud à nous. C'est un Sud normal. Ne sifflez pas. » Et malgré ça, il se fait siffler parce que l'image de Sud à l'intérieur de l'usine, c'est...
On a 1000 postes ouverts aujourd'hui, à ce jour, dans le monde.
Je résume en une fin. Il y a 1000 postes disponibles. Oui. Et dans ces 1000 postes, on en réserve 200 pour
Aulnay. Voilà, absolument.
C'est tout.
Alors, pour faire plus, on va le voir. Vous allez le voir. Non, on peut faire 300, c'est pas le sujet, mais on va voir est-ce que ce dont on a besoin. Donc, par rapport à 2500 personnes qui sont à replacer sur Aulnay, on a 2260 postes réservés en CDI.
Alors, par exemple, je vous pose un problème très concret parce que vous avez 40 postes de moniteurs à offrir à Poissy, et vous avez 200 moniteurs sur Aulnay. Donc, qu'est-ce que vous faites des 160 qui restent? Ils vont où, les 160 moniteurs?
Il y a 150 postes sur d'autres sites.
Non, mais pas de moniteurs. Vous me dire où? Alors, vous me disiez où? Autre site, ça ne veut rien dire. Il faut que vous me disiez où, quand. On vous a, depuis des semaines et des semaines, on vous dit, faites-nous un tableau avec des choses précises en disant tel site, combien et combien dans quel... On vous le demande, et là vous nous représentez un espèce de nuage avec 100 là, 100 machin, 150, 50 dans vous, on ne sait pas où c'est. D'où vos chiffres là? Et vous dites que c'est des engagements. C'est déjà ce que vous mettez, c'est complètement imprécis. Et ça fait des semaines qu'on vous demande ça.
Je suis ni syndiqué, je fais partie de rien du tout. J'ai ouvert les yeux que voilà, on est en train de nous mener en bateau. Non, vous ne pouvez pas aller en grève, juste réfléchir et poser ces questions à eux. Mettez-le dans leur embarras, mettez-le face à leur truc. Voilà, maintenant, on veut des réponses, basta. Tout ce que vous nous proposez, on veut les réponses. On veut ça. Poissy, comment ça se passe? Si je veux quitter la boîte, comment ça se passe? Toi, l'ancien loulou, comment ça se passe? Qu'est-ce que je vais faire?
Tu crois que les gens ils vont gagner le prix qu'ils gagnent ici?
Jamais.
Jamais. Il va commencer tes rimes, oui. 1200, 1300...
Le PSA, c'est le Père Noël. Tu dis, il n'existe pas. Si, il existe. C'est le PSA. C'est il sort 3000 emplois, alors qu'il y a, je sais pas combien
Martin,
de millions de chômeurs.
Martin, il propose 3500 emplois, voilà. Donc ça sort 2800 postes, alors que...
Bah, et ils peuvent se permettre d'attendre ces emplois pendant... Qui va travailler. Ça fait 6 mois qu'ils nous disent qu'il y a ces emplois-là, qu'ils nous attendent, nous.
Et réfléchissez. Harcelez-les aussi. C'est bien beau de rester là, vous êtes assis, vous jouez, ok, nanana. Mais pensez que nous aussi, on se bat pour vous. Prenez notre défense. Non, les mecs, c'est bien ce qu'ils font, c'est fort.
On peut pas baisser notre froc comme ça et puis dire « Oui, d'accord, j'accepte le PSE ».
S'il y a des avancées, tu les prends ou pas ?
Ah bah oui, bien sûr.
Voilà, tu manges le pain sur le dos des autres. Alors, tu dois bouger.
Je sais pas, voilà. Et je crois que personne ne bougera.
Mais arrête de dire ça, t'as devant toi, t'as 4 grévistes, là, arrête de dire ça.
Je suis désolé.
Bah ouais, surtout si toi t'es pas là. T'abandonnes trop vite, hein.
Ah bah non, j'ai bien compris ce qu'il fallait faire, fallait sauver sa gueule, et puis voilà. Malheureusement, c'est...
Ah, moi, je trouve ça vachement égoïste, et puis je te dis ce que tu...
Ah non, je pense à ma fille.
Ouais, bah moi aussi, je pense à mes enfants. Je pense à mes enfants, moi aussi.
Et une autre question que je me posais, c'est, alors du coup, est-ce que la CGT au niveau départemental et national a soutenu cette grève et la forme qu'elle a prise ?
Bah, la CGT au niveau départemental a complètement soutenu la grève. Au niveau national, il n'y a pas, de toute façon, ils sont venus, Le Pen et Martinez sont venus au bout de 2 mois de grève, mais il n'y a pas une politique de grand soutien des grèves, quoi. D'abord, ils ne financent pas. Et puis, bon, donc voilà, il y avait une espèce de neutralité. Alors, Martinez a joué un peu le dialogue à la fin pour l'accord de fin de grève. Mais sinon, au niveau national, il n'y a pas. Leur idée, c'est des grèves, il y en a plein. Et c'est aux grévistes de se déterminer, quoi. Y a pas... Mais par rapport aux autres centrales, c'est mieux. Voilà. On peut dire ça. Par rapport aux autres centrales, eux qui ont signé les accords avec le patronat tout de suite. Hein.
Quelle est la position des grévistes par rapport aux médias ? Est-ce que le fait de vouloir très présent dans les médias et l'image que les médias peuvent véhiculer des grévistes, est-ce que ça n'a pas influencé certaines manières de fonctionner ?
Ben, y a un passage obligé, de toute façon. Y a un passage obligé dans toute grève. On est accusé de violence. Voilà, et les médias participent à l'accusation de violence. Voilà. Après, est-ce que ça a influencé la lutte, c'est ça ?
Parce que je pensais, par exemple, il y a déjà eu des actions plus... Justement, on sent dans le film que vraiment, il y a une volonté de ne pas être violent. Mais ceci dit, il peut y avoir des actions qui sont à la limite de la violence pour faire pression. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Justement, il y avait une volonté de ne pas se positionner trop... de ne pas être dans un comportement trop dur... Est-ce que c'est pas justement dans l'envie de présenter...
Ils envahissent le MEDEF, ils envahissent l'UMM, ils vont à Renault, ils vont à PS à Saint-Ouen. Ils ont fait des coups que pas grand monde a fait quand même. Hein. Qui a envahi le MEDEF ? Qui a envahi l'UMM ?
Je pensais par exemple, parce que ça apparaît dans le film, il y a des débats par rapport à ça, et c'est vrai que souvent, il y a...
Mais la casse, c'est autre chose. La casse, c'est pas un problème de médias. La casse, c'est pas du tout un problème de médias. Eux, ils ont rien contre en soi, ils ont rien contre la casse. Mais la casse n'est pas un problème de médias. La casse, c'est un problème de colère. La casse, c'est un problème de stratégie. Alors, qui veulent pas casser, c'est eux. D'abord, ils savent une chose. Les luttes tombent sur des accusations de violence. Après les accusations de violence, d'abord les potes, ils vont au tribunal, ils perdent leur boulot. Hein, Julien, qu'on voit dans le film, il est aux assédiques. À partir de 3 mois du premier mois de grève, hein, c'est pas encore une fois, on n'est pas chez les bisounours, hein. C'est la porte tout de suite et la cédique tout de suite. C'est ça, hein, la violence. Hein. C'est pas donc il faut choisir, il faut le décider. On décide en AG, est-ce qu'on est violent, est-ce qu'on n'est pas violent. La violence, pourquoi faire ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va obtenir au bout du compte ? C'est ça la question qui se pose. C'est pas des questions médiatiques, c'est des questions de stratégie de lutte. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? À combien on va faire la lutte ? On est dans une grève qui est déjà minoritaire. Il y a un soutien des salariés, très fort, de ceux qui font pas grève, mais ils sont pas dans la lutte. Est-ce qu'en cassant, on va avoir d'autres soutiens ? Est-ce que les autres salariés vont venir dans la lutte ? Est-ce que les autres salariés, ce qu'ils ont fait pendant toute la grève, est-ce que les salariés des autres usines vont venir dans la lutte si on casse ? C'est toutes ces questions-là qui se posent dans des stratégies. Il n'y a pas de réponse univoque. C'est aux gens de décider. Mais c'est pas une question de médias, c'est pas une question de spectacle. C'est une question de stratégie de lutte. Et eux, leur idée de la, enfin, dans les comités de grève, ce qui était majoritaire, hein, pour le coup, c'était vraiment voté et discuté à chaque fois, leur idée, c'était plutôt d'aller voir les salariés non-grévistes, d'aller discuter avec eux, de faire des pétitions, d'essayer d'être plus nombreux, parce que souvent, la violence, c'est une question de faiblesse. C'est-à-dire, on n'est pas assez nombreux. Soit c'est la faiblesse, on n'est pas assez nombreux, donc on fait du spectacle en cassant. Et, ou alors, soit on n'a pas de stratégie, on n'a pas discuté, et donc la colère éclate de façon complètement non discutée, et ça se termine. Et la grève, elle est finie. Et eux, ils n'avaient pas envie de finir la grève, ils ont envie de gagner. Donc c'est des questions de stratégie. Eux, ils ne sont pas contre la violence. D'ailleurs, ça ne s'est jamais, on voit dans le film, ils discutent jamais parce qu'en disant « Ah non, la violence, ce n'est pas bien ». Ils discutent « On en est où ? On fait quoi ? Qu'est-ce qui est mieux ?» Voilà. Et donc c'est vraiment ces discussions-là qu'il y a. C'est-à-dire que c'est un des trucs intéressants du film. La lutte, c'est une stratégie, c'est du dialogue, c'est de la décision collective. Et donc tout ça, ça se construit. Et si on veut casser, le jour où on veut casser, on le décide. Mais on le décide. C'est pas... On fait du spectacle devant les médias, ni on pète les plombs pour le plaisir de péter les plombs. On fait sciemment et en ayant décidé, de façon démocratique. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est pas du tout une question médiatique, hein. C'est une question de stratégie de lutte. Et encore une fois, les coups qu'ils ont faits, y a pas grand monde qui les a faits. Et ils ont été jusqu'au bout de leur lutte, jusqu'à gagner. Voilà. Pas gagner la fermeture, mais ça, c'est parce que c'est aussi une question qui se pose à tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas les mecs, quelle que soit l'usine, c'est pas les gens qui sont dans l'usine qui peuvent empêcher la fermeture. Ce qui peut empêcher la fermeture, c'est qu'il y ait une bagarre commune de tout le monde en disant on arrête de demander si la fermeture elle est juste ou elle n'est pas juste. On dit qu'il ne faut pas fermer les usines. Ouais, mais c'est autre chose.
Je crois que cette grève était surtout basée pour obtenir de meilleures indemnités et non pas réellement contre la fermeture. Enfin, il me semble qu'il y avait cette stratégie-là.
Encore une fois, elle est contre la fermeture, tout du long. C'est marqué non à la fermeture, etc. Et par ailleurs, et en même temps, il y a toutes les revendications élaborées par les travailleurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Dire non à la fermeture à 200, avec le silence de tout le reste de la France, pas le silence, ils ont eu plein de sous, hein, mais pas de lutte en France sur non à la fermeture, et crever tout seul. C'était ça l'idée. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est non à la fermeture. Et on va à Saint-Ouen, et on va à Lire, et on va à Forestia, et on dit à tout le monde, faut se bouger. Oh. Le film finit par interdiction des licenciements. Aucune usine ne doit fermer. Donc ce mot d'ordre, ils l'ont eu bout en bout. La question, elle est plus posée à nous, ceux qui écoutent l'émission comme moi, comme toi. C'est qu'est-ce qu'on fait pour dire, encore une fois, les fermetures d'usines, ça ne sert à rien, il faut les interdire. Est-ce qu'on est capable de dire ça ? Si on n'est pas capable de dire ça, nous, on ne peut pas dire à eux, ah ben dis donc, vous n'êtes pas battus contre la fermeture de votre usine, petits joueurs. Ah non, ils ne sont pas petits joueurs, eux ils se sont battus, ils ont été voir tout le monde. Il n'y a pas eu de mouvement assez fort, et ça se dit dans le film, il n'y a pas eu de mouvement assez fort pour empêcher la fermeture. Ils se sont battus jusqu'où leurs forces les ont menés, ils ont obtenu une dizaine de millions en plus, même plus je pense, sur PSE, sur le plan social, parce qu'ils étaient ce nombre-là et qu'il n'y a pas la bagarre autour en France en ce moment pour empêcher les fermetures. Enfin, le film finit sur interdiction des licenciements, aucune usine ne doit fermer. Discutons-en, qui est-ce qui pense que c'est un mot d'ordre qui tient la route ou pas ? C'est ça la question.
Alors du coup, est-ce que c'est vraiment une victoire en fait ?
Bah oui, c'est une victoire. D'abord, c'est une victoire d'avoir lutté 2 ans, dont 4 mois de grève. C'est encore une fois, faites-le, hein, vous dérangez pas. Hein, ceux qui trouvent que ces petits joueurs, ils peuvent faire plus s'ils veulent. Hein. Donc c'est une victoire. Et l'autre victoire, c'est que par rapport à ce qu'ils avaient comme plan social au départ, ça a été carrément amélioré. Donc voilà, de leur point de vue, avec leur force à eux, c'est une victoire. Et encore une fois, comment ça se fait qu'on pose la question de la lutte en termes de gains ? C'est quelle formation d'esprit, ça ? Ça veut dire que nous-mêmes, on est formatés avec les éléments du patronat, quoi. Ça veut dire quand même que c'est gagner ou perdre. C'est ça une lutte. Moi, je pense que la lutte, c'est juste un élément normal de la vie quand on est face à un patron et que quand on l'engage, déjà, c'est gagner de l'engager, c'est gagner de la faire et c'est gagner ce qu'on y gagne. Et puis ce qu'on y gagne surtout, parce que les acquis qu'on a, on les perd toujours, que ce soit de l'argent ou que ce soit des acquis sociaux, etc. On risque toujours de les perdre avec l'affaiblissement du mouvement ouvrier. Mais ce qu'on a gagné en termes d'avoir pris le pouvoir pendant que ce soit, eux c'est 4 mois, mais ça peut être moins, en général c'est moins, 4 mois de grève, il n'y a pas beaucoup, d'avoir pris le pouvoir, d'avoir été décideur, etc., ça on le garde pour toujours. Ça, on est soi-même, on le garde en soi, quoi. Il faut prendre la lutte comme quelque chose qui est en nous. pas simplement gagner ou perdre. Parce que si tant qu'on sera sur gagner ou perdre, on n'emmènera pas des gens se battre. Hein. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu commences une lutte, tu n'as pas gagné par définition. Tu gagnes qu'à la fin, mais vraiment à la fin. Tant que tu fais la lutte, c'est que tu n'as pas gagné. Donc il y a un moment, tu l'arrêtes parce que tu considères que là, tu es arrivé au bout de ce que tu peux gagner au nombre que tu es. C'est-à-dire, c'est ça une lutte, c'est vraiment de la stratégie, c'est de la pensée, quoi. C'est pas les bisounours, ouais, vas-y, pas cool, ils ont pas gagné la fermeture de leur usine, quoi. Voilà, s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont pas gagné assez, qu'ils réfléchissent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour empêcher les fermetures d'usines en France et ailleurs.
Ils ont gagné combien, alors ?
Ils ont gagné, déjà dès le début de la grève, ils ont gagné 3 mois d'indemnité en plus, ils ont gagné sur les plans seniors, ils ont gagné sur tout un tas comme ça d'aménagement du plan social. Et pour ce qui concerne les grévistes, et là ils viennent d'obtenir au tribunal que ce ne soit pas que pour les grévistes, ils ont gagné 20 000 euros en plus d'indemnité pour ceux qui partaient, la réintégration de tous les gens accusés de violence ou quoi que ce soit, et ils ont obtenu le... Pour ceux qui voulaient une mutation, ils ont tenu de décider de la mutation et d'avoir le poste qu'ils avaient choisi.
Ceux qui finalement n'ont pas été reclassés, qu'est-ce qu'il en est pour eux aujourd'hui ?
Donc, il y a 1227, ce qu'ils appellent pas. Ils appellent pas ça évidemment. C'est un délicenciement, mais ils appellent ça des projets professionnels. Non, comme ça, ça permet de dire qu'on licencie personne. Donc sur les 1200, on n'a pas exactement les chiffres puisque c'est dispatché dans les ACEDIC. Mais en tout cas, là, c'est 2 ans. Donc il y en a qui commencent à être au RSA. Et donc il y a une bagarre des anciens grévistes, de ceux qui sont encore, pour obtenir que, puisque l'engagement de l'État, c'était personne au Pôle emploi, ce qui est ce n'est pas le cas, évidemment, qu'au moins il y ait des formations selon ce que les gens ont choisi, etc. Donc là, il y a cette lutte qui est engagée en ce moment, en plus d'une autre lutte au tribunal, donc pour obtenir les 20 000 euros pour tout le monde, et pour obtenir, ça ils ont gagné, que les licenciements soient qualifiés comme sans cause réelle et sérieuse. Ça ils ont gagné, le 8 mars.
Parce que moi j'avais compris que les 20 000 euros, finalement, tout le monde les avait eus à la fin de la grève.
Non, non, les 20 000 euros, c'est 20 000 euros qu'ont proposé la direction hein, aux grévistes pour qu'ils s'en aillent, d'entreprise. Voilà. Donc ils ont touché ces sous-là, ceux qui sont restés ont fait des AG dès qu'ils sont rentrés dans l'usine pour proposer aux autres, ceux qui avaient fait grève moins longtemps comme ceux qui n'avaient pas fait grève, de réclamer pour eux-mêmes les 20 000 euros, puisque c'est assez illégal de faire ça. Donc ils ont fait des AG, des délégations, etc. La lutte n'a pas continué. Hein. Et donc il y a eu des gens qui ont obtenu. Parce que le SIA a fait des listes, parce que Sud a fait des listes, tout le monde a fait ses listes, et qu'il y a eu 550 personnes qui ont obtenu 20 000 euros, ce qui est complètement délirant. Et donc du coup, ils ont continué la bagarre jusqu'à maintenant pour que ce soit reconnu comme étant illégal et que ce soit étendu à tous les salariés, quoi. Mais c'est une bagarre qu'ont fait les gens qui avaient fait grève, alors même que en essayant de continuer cette lutte-là, parce que l'idée des grévistes, quand ils ont signé l'accord, c'est de continuer la bagarre après, hein. Mais sauf que y avait pas assez de gens dans l'usine pour continuer la bagarre après.
On est ici au siège de l'UIMM. C'est le syndicat des patrons de la métallurgie. Le président, c'est Frédéric Saint-Jour, c'est le numéro 3 de Peugeot. Donc on va, comme on l'a décidé, aucune éraflure, aucune égratignure, vous m'avez compris, on va faire venir la presse. Et pour l'instant, on bouge pas.
Si vous êtes décidé à rester longtemps, je vous trouvais, vous voyez pas de sac de couchage. De provisions.
Oh mais ça, ah si, les provisions là. Regarde, ça arrive. Regarde, c'est vrai que c'était baguette là.
Tout à l'heure, il a dit, on a marqué le point. Ça fait plusieurs actions, à chaque fois, on marque le point. Moi, j'aimerais bien savoir, on va marquer combien de points pour arriver... Il faut marquer combien de points? Attends.
C'est le numéro 3 de Peugeot, qui est ici, qui est le patron, même s'il n'est pas là, même s'il est à Genève. Moi, je vais pas dire, je suis ici Et en ce qui me concerne, je ne dois pas être le seul, je suis ici, je ne bougerai pas. Tant que les CRS n'auront pas sorti, que lui ne sera pas venu nous dire qu'on a un médiateur, je te jure, je suis là samedi, dimanche, lundi, mardi, il va venir, il va nous dire.
Et devant les caméras, on invite la presse à l'extérieur.
Exactement.
Si ça sert à rien de parler avec eux et de perdre du temps avec eux, autant s'asseoir à l'accueil et gentiment, oui, pas le croiser, viens me chercher.
Lundi, c'est le démarrage de l'usine, il faut réfléchir. Alors moi, je le souhaite, moi aussi, j'aimerais bien de rester ici. Mais il faut qu'on voit, on va voir combien de personnes restent ici. Au plus, c'est le week-end. C'est le type locaux ici pendant le week-end. Parce que c'est pas la semaine. On avait beaucoup de choses à faire.
La grève, elle s'arrête pas aujourd'hui, quoi. On a fait un truc, la grève s'arrête pas aujourd'hui, la grève continue à partir de lundi. Moi, ce que je voudrais, Jean-Pierre, c'est que si on accepte, si on fait un vote, il faudra faire un vote, quoi qu'il arrive. Si on accepte que toi, entre autres, t'ailles en réunion pendant que nous, on reste là et qu'à la fin de la réunion, on sort tranquillement, je veux que tu leur fasses comprendre que nous, on est rentrés là et qu'on est capable aussi de rentrer dans notre truc.
Moi, je préfère faire comme il a dit Christophe, dire écoutez, on est rentrés, je rentre quand je veux, je sors quand je veux. Je rentre quand je veux, je sors quand je veux. Voilà. Mais si les copains, vous voulez, si les copains veulent qu'on nous tire, qu'on nous vire, il n'y a aucun problème. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler.
Alors, qui est pour ? Qui est pour ? Monter, discipliner, sans violer, ni rien. Attendez, ni rien. Et puis dire, on a décidé de sortir. Qui est pour ?
T'es fier, les copains. Tête haute, t'es fier.
On a décidé de faire cette action, c'était pour passer un message au gouvernement et à la direction que quand on veut, on rentre n'importe où.
Allez,
tu peux oublier !
Allez, casseurs ! Allez, casseurs ! C'est les patrons ! Allez, les ouvriers ! Allez, casseurs ! Les casseurs ! C'est les patrons ! C'est maintenant ! Le changement ! C'est maintenant ! Le changement ! C'est maintenant !
Je me pose la question de ces grévistes qui finalement n'ont pas demandé à être classés. Est-ce qu'ils ne sont pas blacklistés ? Enfin, comment ça se passe pour eux, ça ?
Il y en a, pour une part, alors c'est plusieurs choses. Pour une part, quand leurs noms ne sont pas connus, comme c'est des gens ils sont combatifs, il y en a une bonne partie qui a quand même réussi à retrouver du boulot. Pour ceux qui sont... Les délégués qui sont restés à l'usine, donc ils n'ont pas... Ils n'ont pas le problème, enfin ils ont des problèmes à l'usine, mais ils n'ont pas le problème de se reclasser. Pour certains connus, c'est difficile. Ouais. Il y en a un pour qui, par exemple, c'est très très compliqué. Quoi. Donc là, ils ont obtenu qu'il ait une formation, qu'il ait enfin une formation et il espère trouver un boulot là. Mais c'est vrai que pour lui, par exemple, c'est très dur. Ceux qui sont connus, c'est très très dur. Ouais.
J'imagine pour les grévistes qui n'étaient pas syndiqués, du coup, enfin peut-être qu'ils sont syndiqués après coup, enfin parce que j'imagine que le soutien du syndicat, ça peut être important aussi dans ce genre de situation. Je sais pas.
Non. Globalement, il y en a qui sont syndiqués. Il y a Gilles, par exemple, qu'on voit qui dit le monsieur assez ancien qui a 30 ans de boîte et dont c'est la première grève. Je crois que maintenant il est syndiqué, mais lui il est resté dans l'entreprise. Sinon, pour la plupart de ceux qui sont partis, c'est la Seine-Saint-Denis, donc c'est des petits boulots, c'est des contrats précaires, c'est des boîtes, c'est du boulot dans des boîtes où il n'y a pas forcément de syndicat. Donc non, il n'y a pas eu une vague d'adhésion syndicale, enfin je crois pas, ça me semble pas. Par contre, il y a eu des belles choses, Gilles dont je parle, où il y a Gigi aussi qui était au SIA, qui est maintenant délégué CGT, qui est vachement, qui est une nana passionnante, quoi, parce qu'à la fois elle peut expliquer ce qu'est le système d'un syndicat patronal et ce qu'elle a pu trouver dans la grève et en étant maintenant la CGT, quoi. Ça c'est intéressant.
Parce que ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est qu'on voit beaucoup de visages, en fait, on les entend pas tous parler. Mais ils sont très présents à l'image et du coup, c'est vrai qu'on, en même temps qu'on les voit en grève, on s'inquiète un peu pour leur avenir, quoi. Enfin, c'est vrai que...
Ouais. En même temps, ça se voit dans le film, l'avenir de ceux qui n'ont pas fait grève a été rude aussi, quoi. Très, très, très rude. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a une peur et le fait de ne pas s'engager dans la grève, c'est par rapport à son avenir. Mais enfin, il y a un truc assez logique et auquel on ne pense pas. C'est quelqu'un qui se bat pas. Il pense qu'il va être mieux vu par la direction. Or, la direction, elle considère qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec lui puisqu'il n'a pas de combativité. Donc, en fait, c'est hyper dur aussi pour les gens qui n'ont pas fait la grève. Ça, je pense qu'il y a... Il faut y penser, quoi. Aussi, quand on ne fait pas grève, c'est que si on est faible, il n'y a pas de raison que le patron soit sympa.
Mais donc, finalement, les non-grévistes ne sont pas mieux sortis que les grévistes.
Je pense que c'est pire. Personnellement, je pense que c'est pire parce que, hormis peut-être les gens du SIA qui ont peut-être négocié des choses, mais pour les gens qui n'ont pas fait grève, ça se voit à la fin du film. C'est d'une violence inouïe de vivre une fermeture sans relever la tête, quoi. C'est trop dur. Ça veut dire qu'il faut, il faut tout le temps courber les chines pour essayer que le patron soit gentil, quoi. C'est insupportable à vivre. Et ça fait péter les plombs. Hein. Ça fait la colère. Mais c'est de la colère qui part nulle part, donc qui se retourne contre soi-même, quoi.
Ah, merci. Et alors, donc, on a dit, on redonne peut-être la date de sortie du film.
Donc, sortie le 23 mars dans les grandes villes de France, plus Montreuil, Ivry et Saint-Ouen.
C'était l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. On se retrouve dans un mois.